Ramadan & Co avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Beurre FM, sur les traces du prophète Abdelali Mamoun.
Sur les traces du prophète. Bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver. Nous marchons sur les traces du prophète pendant tout ce mois de Ramadan avec vous et puis l'imam Abdelali Mamoun qui nous raconte cette histoire. Bonsoir imam Abdelali.
Bonsoir Philippe, nous étions en train de raconter justement cette belle histoire de sa conversion, de la conversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib, donc l'oncle paternel de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui je rappelle était aussi son frère de lait. C'était son frère de lait de deux manières, à la fois de Thouaïba, la fameuse première femme qui a allaité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était donc aussi la mère de lait de Hamza, et aussi Hanim al-Sa'diyya. Donc par deux mères de lait, Hamza est le frère de lait du prophète Mohammed, en plus d'être son oncle paternel. Donc c'est un Hashimite, c'est un Qurashi, c'est un notable, c'est quelqu'un de très fort, physiquement on a du mal à se mettre face à lui, hein, et d'essayer de l'affronter, surtout quand il est certain d'avoir raison. Donc cet homme-là...
Ouais, mais qu'est-ce que vous nous n'avez pas raconté sur sa conversion hier ?
Eh bien tout simplement que quand il va avouer spontanément qu'il dit la même chose que dit Mohammed, il va le dire à Abu Jahl, il n'a pas d'autre choix que de le confirmer. Donc pour cela, comme il n'a pas encore vu son neveu pour se convertir, il rentre chez lui et se pose des questions. Comment tu vas te convertir et suivre la religion de ton neveu, ton inférieur un petit peu, c'est un peu ça comment il le voit. Donc il est un petit peu dans l'angoisse, dans l'incertitude.
Il regrette ?
Alors c'est pas des regrets, mais il se pose des questions. Il dit le seul moyen d'enlever ce doute, il faut que j'aille le voir demain. Et donc effectivement, le lendemain, il va rencontrer Mohammed, le prophète, son neveu. Il va lui dire que voilà ce qui s'est passé devant Abu Jahl. Et effectivement, le prophète va lui dire mon oncle chéri, je t'aime, tu es un être très important à mes yeux, tu es mon frère de lait, etc. Et effectivement, ce que je te veux, c'est pas devenir ton seigneur ou ton maître ou ton supérieur. Je suis simplement le messager de Dieu. Je suis l'envoyé de Dieu. Et là, il va lui réciter des versets du Coran qui vont tout de suite atteindre le cœur de Hamza, qui va prononcer l'attestation de foi et dire « Il n'y a de Dieu qu'Allah et tu es, ô Mohammed, l'envoyé, le messager de Dieu. » Donc voilà la première conversion. Et il va commencer à découvrir et à s'imprégner de la foi à travers la parole de Dieu que... Et à partir de là, trois jours plus tard, Abu Jahl, qui avait été blessé, et il sait qu'il a un neveu lui aussi qui est une armoire à glace, il est pas content, puisque Hamza lui a donné un coup quand même qui est assez méchant. Donc il a cette grosse bosse qui lui pousse sur le front, il a très mal, il a la tête qui lui fait très mal. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Lui aussi, il va voir un homme fort de la tribu des Bani Adi, qui est les cousins de Bani Marzoum, qui est les alliés de Bani Marzoum. Et voilà, il y a du sang qui a coulé, donc il faut que, comme on dit, la règle du talion, œil pour œil, dent pour dent. Moi, je peux pas accepter que Hamza, comme ça, de la tribu des Hashim, me frappe en plus et m'humilie devant toute ma tribu. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir son neveu, qui est tout simplement Omar ibn al-Khattab, le Imlaq, l'homme puissant, l'homme énorme, l'homme gigantesque, l'armoire à glace de la Mecque, et qui est un homme très très violent et très très brutal. Donc même les gens disaient que cet homme-là a un cœur tellement dur, en parlant de Omar al-Khattab, que si même l'âne de Omar se convertit, Omar ne pourra se convertir. Tu vois, même si l'âne bourricot de Omar, il a aslama himar Omar, la yuslim Omar. Voilà ce que disaient les gens, tellement il avait un cœur dur, que c'est pas possible que Omar puisse se convertir à l'islam, alors que le prophète, à ce moment-là, a commencé déjà à faire une invocation en disant Allahumma ansur al-islam bi ahadil Omarain. Oh mon Dieu, donne la gloire à cette religion à travers la conversion de l'un des deux Omar. Alors, qui sont ces deux Omar ? Eh bien, c'est tout simplement Omar ibn al-Khattab, celui que nous allons parler, et tout simplement Amr ibn Hisham, qui est notamment Abu Jahl, c'est-à-dire l'oncle de Omar, Khaluhu, l'oncle maternel. de Omar al-Khattab, qui est l'ennemi juré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Donc ce qui va se passer, c'est que Abu Jahl, qui va montrer la blessure qu'il a sur le front à son neveu, il dit: ouais, t'as vu, je me suis fait humilier, tout ça c'est à cause de Mohammed, etc. Donc il chauffe à blanc Omar al-Khattab. Donc Abu Jahl chauffe son neveu à blanc. Il lui dit: tu peux pas laisser comme ça les Bani Adi et les Bani Makhsoum se faire humilier de cette manière-là. Il faut que tu me venges. Et là, Sayyidina Omar, il rentre chez lui, il récupère son épée, il la sort même de son fourreau et il sort dans la rue en direction du Marwa, c'est-à-dire là où se trouve, à côté du Marwa, là où se trouve la maison de Khadija, là où il y a la demeure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il marche sur le chemin et il rencontre un homme dont il sait qu'il s'est converti. Il l'attrape et il commence à le tabasser. Il commence à lui taper dessus, mais pas possible, de manière brutale. Il lui défonce la figure. Voilà.
Sans raison.
Si, il sait que c'est un musulman.
C'est tout.
La raison, c'est que c'est un musulman, que c'est un adepte de Mohammed. Donc il le massacre. Et là, à un moment donné, le gars, il en a marre de recevoir des coups. Il dit: arrête, arrête, il y a Omar, arrête. Tu me frappes alors que ta propre sœur, elle est musulmane. Pour la même raison, pourquoi tu me frappes? Eh bien, sache que ta sœur, elle s'est aussi convertie. Il disait sabaat, yani sabaat, c'est-à-dire elle aslamat wa dakhalat l'islam. Elle s'est convertie elle aussi à l'islam. Il dit: quoi? Ma sœur? Quelle sœur? Ben, ta sœur Fatima. On parle de Fatima, la sœur de Omar, qu'on appelait Fatima bint al-Khattab, puisque lui s'appelle Omar ibn al-Khattab, donc fils de Khattab. Donc, Fatima, qui est mariée avec son cousin Saïd ibn Zayd, on a dit c'est un des 10 premiers convertis à l'islam, le pilier central, le noyau central des compagnons du prophète qui entouraient le prophète, était en train d'apprendre de lire le Coran chez eux avec un autre compagnon. Et donc tous les trois étaient en train de lire le Coran, Fatima, son mari Saïd ibn Zayd et un autre compagnon. Il se rapproche de la maison, il entend cette récitation. Omar entend la récitation, alors toujours il tient dans sa main son épée. Et il toque à la porte de manière très brutale et il dit à sa sœur: ouvre-moi la porte. Et bien Saïd ibn Zayd, c'est son cousin paternel, Ibn Ammo, de Omar. Saïd ibn Zayd est le cousin de Omar Khattab. Et donc Saïd ibn Zayd vient, il ouvre la porte et il voit qui? Et il voit Omar Khattab. Tout de suite Omar, il lui met un coup de poing sur le visage et il l'assomme par terre. Et il rentre, sa sœur court vers son frère Omar et essaye de le secouer, c'est-à-dire pour l'empêcher de frapper son mari. Et elle aussi, elle prend une énorme baffe sur la figure et elle tombe par terre, elle commence à saigner du visage. C'est une scène d'horreur qu'on voit, que vit Fatima bint al-Khattab, la sœur de Omar Khattab, et son mari et son compagnon qui sont en train de réciter le Coran. Omar est complètement, on va dire, chauffé à blanc. Il est complètement fou de ce qui lui arrive. Et là, au moment où il frappe sa sœur, eh bien, il lui vient ce sentiment de honte. Comment moi, un homme aussi fort et puissant, j'ose lever la main sur une femme faible et fragile, et en plus ma sœur? Donc, il commence à s'agir et à se calmer. Et il dit à sa sœur Fatima, il y a Fatima. Mais c'est quoi que vous étiez en train de réciter là? Il dit: ça c'est la parole de Dieu qu'on était en train de réciter. Elle a dit: montre-moi, sachant que bien entendu Omar al-Khattab était un des rares, mais quoi, lettrés, c'est-à-dire qui était capable de lire les écritures, il savait lire l'arabe. Donc il lui dit: donne-moi le manuscrit qu'il était en train de lire. Et là, bien entendu, sa sœur lui dit: non, toi t'es un mécréant, t'es un idolâtre, dégage. Elle aussi, elle a de la personnalité, elle se laissait pas faire, mais elle était quand même une femme fragile devant son grand frère. Et donc lui dit: mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour pouvoir avoir accès à ce livre? Il dit: va te laver d'abord, va faire une douche. Donc il sort, il prend un seau d'eau, il le verse sur sa tête. Alors ça, on imagine bien entendu dans un climat très chaud, quand vous versez un seau d'eau sur la tête, ça vous rafraîchit tout simplement. Les vêtements sèchent au bout de 5 minutes et voilà. C'est quelque chose, il ne faut pas imaginer les choses, on n'est pas en France. On est dans un pays qui s'appelle Médine, très aride et très chaud, où les vêtements se sèchent rapidement. Et il jette carrément le seau d'eau sur sa tête alors qu'il est tout habillé. Et donc après, il a l'eau qui coule encore de ses cheveux et de sa tête. Il dit: maintenant que je suis lavé, donne-moi le manuscrit. Et là, lui donne le manuscrit. Et il commence à lire le Coran. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق السماوات العلى الرحمن على العرش استوى et ainsi de suite. Il continue à réciter cette sourate qui en plus est d'une beauté extraordinaire. الرحم تنزيلا ممن خلق السماوات الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى طه. Nous ne t'avons pas envoyé ce Coran pour que tu sois malheureux, que seulement pour un rappel celui qui a la crainte. Une descente venant du Seigneur, de celui qui a créé la terre et les cieux tout au-dessus, le miséricordieux qui s'est installé sur son trône. À lui est les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre eux, les deux et tout ce qu'il y a sous la terre. Et que tu lèves la voix ou que tu la baisses, il l'entend. Il le sait. Allahu la ilaha illahu. Dieu, il n'y a de Dieu que lui. Lahu al-asma'ul husna. À lui les noms les plus beaux. Et voilà que ces mots-là vont tout de suite toucher le cœur de Omar. Il dit, mais c'est magnifique ça. Mais ça ne peut pas être un homme qui a reçu, qui a pu écrire ce texte-là. Il est d'une beauté extraordinaire. Et donc, il dit, allez, donne-moi encore un autre. Et il commence à lire une autre sourate. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ etc. Et là, ce verset-là parle des événements de la fin des temps. Il commence à frémir de frayeur et de crainte d'Allah Azza wa Jal. Et il se dit, mais c'est extraordinaire. Effectivement, cette parole ne peut être que celle émanant d'un Dieu créateur. Et donc, effectivement, il dit à sa sœur, mais il est où, Mohammed? Est-ce qu'il est chez lui? Est-ce que je peux le trouver? Je lui ai dit non, tu ne le trouveras pas chez lui. Tu vas le trouver dans la maison de Arqam ibn Abi al-Arqam, qui est derrière le mont de Abi Qubays, c'est-à-dire au sud du mont Safa. Et donc il part là-bas, il marche, il se dirige vers la maison de Arqam ibn Abi al-Arqam. Et dans la maison, il y a des compagnons, et parmi eux, il y a Hamza, bien sûr. Et le prophète ne sait pas que Mohammed a le cœur affermi par le Coran et qu'il veut se convertir. Et il ne sait pas, il pense qu'il est venu pour le tuer. Parce que le compagnon qui s'est fait tabasser par le prophète au début, lui va courir à la maison de Arqam pour mettre en garde. Il y a Mohammed, attention, il y a Omar, il a sorti de son épée du fourreau, il va te tuer. Et là, bien entendu, les compagnons, ils sont en panique. Parce qu'ils savent qui c'est, Omar, c'est pas n'importe qui. Mais le seul qui n'est pas paniqué, c'est Mohammed, bien sûr, alayhi salam, qui sait que Dieu le protégera. Et aussi Hamza ibn Abdul Muttalib, l'autre poids lourd, qui dira, laissez-le, s'il veut du bien, il aura le bien. S'il veut du mal, nous le tuerons avec sa propre épée. Hein? Et in arada khayran, fa khayran arada sharran, qatalnahu bi sayfi. Voilà ce que dira Hamza ibn Abdul Muttalib. Et donc il arrive, et au moment où il toque à la porte, eh bien Hamza se lève et le prophète le pousse et lui dit laisse-toi, laisse-le. Et il prend le prophète Omar, il le secoue, il le soulève du sol et lui dit Ama kafaka ya Omar, n'en as-tu pas eu assez ya Omar de tout ce que tu fais comme turpitude et comme tyrannie? Et là il se calme et dit ya Mohammed, ya Rasulallah, je suis venu me convertir. Il dit ah bon? Et il le relâche et lui dit je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et je témoigne que tu es le messager. Cette parole que j'ai entendue chez ma sœur, elle ne peut qu'être que la parole de Dieu et je témoigne que tu es son messager. Voilà comment ces deux grands personnages vont débuter une nouvelle phase de la réalité sociologique à la Mecque et qui va donc passer d'une période mécoise secrète à une période notoire, publique, dans les rues.
Mais vous avez parlé de deux Omar, il y a un deuxième Omar?
Bah, Amr ibn al-As. Amr Omar, c'est
d'accord,
Amr ibn Omar. C'est l'oncle paternel, l'oncle maternel, excuse-moi,
d'accord.
Qui s'appelle Abu Jahl, que l'on surnomme Abu Jahl, qui lui va rester le pire ennemi du prophète.
D'accord. Bien. Vous réécoutez cet épisode en podcast sur beurrefm.net et dans un instant, vous allez poser toutes vos questions à l'imam Abdelali Mamoun. Allô l'imam au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Ramadan Enko revient dans un instant.
Suivez Ramadan Enko avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan Enko avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et on est 30 jours avec vous, bonsoir, bienvenue. Ramadan Enko, le week-end aussi, imam Abdelali. On pense à tous ceux qui ont pu se reposer aujourd'hui, qui ne sont pas allés travailler, qui avaient une vraie journée pour eux en fait.
Oui, effectivement, mais moi aujourd'hui je suis reposé.
C'est vrai?
Aujourd'hui on n'a pas eu beaucoup de travail à faire.
Vous étiez zen?
On était zen aujourd'hui, c'était journée repos.
C'est
Shabbat. C'est Pourim, c'est le carême, c'est le ramadan, c'est toutes les fêtes religieuses.
Mais c'est le carême en ce moment.
Voilà, c'est ce que je viens de te dire.
Ouais,
c'était des jours de repos et de, de recueil spirituel.
Jusqu'au 28 mars, je crois, les musulmans et les...
Ouais, j'espère que ça va être un moment de méditation pour tous, pour promouvoir la paix dans le monde, Inch'Allah.
Il faudrait qu'on invite le père Henri Fautra.
Ah, Inch'Allah, ouais, avec plaisir.
Il faudra l'appeler, imam Abdelali.
Ouais, on va essayer.
Bon, allô l'imam, vous
faut
savez...
Il ne faut pas qu'il ment, hein. Non, il ne ment pas, lui. Même s'il est du Mans, il ne ment pas. C'est un petit jeu de mots.
Non, mais c'est bien. Un voilà. Imam qui a de l'humour.
Voilà,
et en plus, on ne l'a pas vu arriver, c'est ça qui est bien. Mm-hmm. Bon, sérieusement, Imam Abdelali, la première partie de l'émission, c'est allô l'imam. Donc, vous pouvez appeler.
On y va
l'imam
avec les questions en rafale. Allez.
Et toutes les questions. Hein, vous posez toutes vos questions à l'imam. Il n'y a pas de questions interdites. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Alors, nous avons Muriem qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Muriem.
Oui, bonjour, salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Bon ramadan.
Ramadan Mubarak Karim.
J'ai des questions en fait.
Ah, oui. Une c'est bien, alors on vous écoute.
En fait, moi je travaille dans un magasin.
Oui.
Et de temps en temps je fais la caisse. Et,
oui.
Et des fois il y a des clients qui ramènent des bouteilles d'alcool. Je veux savoir c'est quoi le hukm.
Vous travaillez dans une caisse d'un magasin qui vend des produits dont parmi les produits, il y a de l'alcool, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
D'accord. Ben, écoutez, il est clair que en islam, il n'est pas permis de consommer de l'alcool. Il n'est pas consommé de manipuler aussi l'alcool, et ni de l'acheter, ni de le vendre, etc. Donc effectivement, il y a une position claire pour justement encourager, ou du moins dissuader, au contraire, la société à consommer de l'alcool, qui est donc connu comme une boisson dangereuse, quelque chose de néfaste pour l'être humain. Donc c'est pour cela que en islam, il est interdit de consommer l'alcool. Donc vous devez faire tout ce qui est de votre moyen de vous en éloigner, comme le dit le Coran, fajtanibouhu la'allakum tuflihun. Hein, éloignez-vous-en, peut-être ainsi atteindrez-vous la béatitude et la félicité. Donc, vous faites dans la mesure du possible. Et là, le Qitishi Khidma, petit à petit, vous essayez de voir si vous ne pouvez pas trouver une autre activité qui vous éloigne de ce genre de choses. Mais en attendant, vous gardez votre travail et vous faites du mieux possible, Inch'Allah, pour ne pas vous approcher de vous en éloigner le plus possible. D'accord ?
Ok. Et
voilà.
J'ai une deuxième question, s'il vous plaît.
Bismillah.
En fait, j'ai des intérêts. J'ai au bled. Enfin, il y a une route. Elle est mal faite. Est-ce que je peux utiliser les intérêts pour faire cette chemin ?
Oui, tout à fait. Très bien. Parfait.
À côté de chez moi, c'est pas grave ?
Oui. C'est un lieu public, c'est le chemin de.
Oui, voilà, oui.
Oui, tout à fait. Allez-y.
D'accord.
Allahumma yassir. C'est le meilleur, même, je dirais. C'est le meilleur qu'on puisse faire, c'est de les utiliser à bon escient pour l'intérêt collectif. Okay, utiliser d'accord. L'argent des intérêts pour les biens collectifs.
Merci Muriem. Linda est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Linda.
Allô ?
Oui, salam alaikum.
Alaikum salam, bonjour à tous.
Bonjour.
Merci beaucoup de me prendre en ligne. J'avais une question, moi, s'il vous plaît. En fait, je suis enceinte de 3 mois et je voulais donc le gynécologue m'a déconseillé en fait de jeûner et je voulais savoir en fait si je devais si je pouvais payer la fitia ou si je devais rattraper en fait les jours.
Alors tout dépend si après votre accouchement vous avez prévu d'allaiter votre enfant et que si cet allaitement va vous empêcher de jeûner ou pas. Donc tout dépend. Donc écoutez, en attendant, vous ne faites rien. Vous ne jeûnez pas et vous ne versez aucune fidia, c'est-à-dire l'expiation, pour ceux qui n'ont pas compris la fidia, c'est-à-dire la somme compensatoire qui expie le fait de ne pas jeûner, et bien entendu qui est liée à selon les moyens, entre 2, 3, 5, 7 euros par jour non jeûné, selon les moyens de la personne et selon ce qu'elle a l'habitude de consommer elle-même. Donc cette fidia, pour l'instant vous ne la versez pas, vous attendez de voir comment se présente la situation après votre accouchement, si vous allaitez ou pas votre enfant. Si vous décidez d'allaiter votre enfant, au moins jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au ramadan prochain, à ce moment-là vous versez la fidia. Si vous pensez que non, ça va durer 2-3 mois parce que je dois reprendre mon activité professionnelle, ça veut dire que forcément je vais arrêter d'allaiter mon enfant, à ce moment-là vous attendez d'arrêter d'allaiter. Et vous rattraperez doucement, de manière alternée, ces jours de mois du ramadan que vous n'avez pas jeûné. D'accord.
Voilà Linda, merci pour votre question. Moussa est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir et bienvenue Moussa.
Mais je voudrais dire quand même une dernière chose par rapport à la dame, que 3 mois de grossesse, normalement, Allahu a'lam, peut-être, ça n'empêche pas de jeûner. Mais c'est le médecin qui a le dernier mot sur cette question. Ce n'est pas l'imam de dire jeûner ou pas jeûner parce que vous avez à 3 mois ou 4 mois ou 5 mois ou peu importe. C'est au médecin de savoir, de définir si vous pouvez ou non jeûner, votre gynécologue, je préciserai même.
Alors, voilà. On récupère Moussa. Moussa, c'est à vous.
Oui, bonsoir.
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 Allô? Alors, quelle est votre question, Moussa?
Vous m'entendez? Oui, j'ai une question sur... À quelle heure on doit arrêter de manger le matin? Pardon.
C'est ça la question?
Alors, oui, à quelle heure on doit arrêter de manger le matin?
Est-ce que c'est Excusez-moi, est-ce que c'est à l'heure de
l'Imsak
ou à l'heure de
Salat al-Fajr? Ok. Alors, c'est l'heure d'El Fajr. Le Coran, il est clair là-dessus. Il dit « Mangez et buvez jusqu'à que vous distinguiez le trait blanc du trait noir de l'aube. » L'aube, en arabe, il est traduit dans le Coran « Al-Fajr ». Al-Fajr, ça veut dire l'aube. Ce n'est pas l'Imsak. Ce Imsak qu'il y a avant, c'est un avis religieux qui existe, bien entendu, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais il n'est pas recevable étant donné qu'il contredit le Coran. Le Coran dit jusqu'à Al-Fajr, jusqu'à l'aube. Et c'est à l'aube que vous commencez le jeûne. Et vous jeûnez parce jusqu'au coucher du soleil. Mais pas avant.
Il y a beaucoup de contradictions là-dessus.
Non ?
Il y a beaucoup de contradictions là-dessus.
Non, non, il n'y a qu'un seul avis, c'est l'école malikite, avec un avis de l'école malikite, selon Oumouna Aïcha, qui disait que le prophète, quand il arrêtait de manger le matin, il restait encore à peu près l'équivalent d'une lecture de 50 versets, c'est à peu près un quart d'heure, parce qu'il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas de seconde, il n'y avait pas de minute à l'époque. Donc, ils évaluaient le temps par le temps que vous mettez pour lire un certain nombre de versets. Et donc, elle disait l'équivalent de 50 versets entre le moment où il arrêtait de manger et l'aube, et l'adhan al-fajr. Donc nous, on va dire, est-ce qu'il faisait ça tous les jours? Non, c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit qu'un jour, ça s'est passé comme ça. Mais on peut pas en faire généralité. La généralité, c'est quoi? C'est le texte coranique qui dit, vous mangez, vous buvez jusqu'à l'aube. Donc ça, si quelqu'un veut s'arrêter avant, il a le droit. Le prophète s'est arrêté avant, mais il a pas dit arrêtez-vous avant. Il a dit, moi, je m'arrête avant parce que je veux aller faire mes ablutions, parce que pour moi, c'est bon, j'ai mangé une date ou deux, ça suffit, et je vais débuter le ramadan. Mais en principe, la règle, c'est de retarder au maximum la collation du sahur, du matin, le plus possible. Hein, s'il faut manger le plus tard possible. Et le soir, al-maghrib, de rompre le plus tôt possible. Le prophète, il dit « La tazal ummati bi khayrin ma ajjalul futur » Ma communauté sera bien tant qu'elle accélérera, c'est-à-dire elle rompra le plus tôt possible et retardera au plus tard possible le matin, le moment où est-ce qu'elle débute le jeûne du ramadan. Donc le sahur, il se prend jusqu'à la dernière minute avant le fajr, et le futur, le soir, là, c'est-à-dire ce soir, à 19h, combien Philippe?
11,
voilà. À 19h11, tout de suite, pour aller prendre le verre d'eau, le verre de lait, je sais pas moi, les dates, tout ce que vous voulez, vous pouvez considérer que vous n'êtes plus en jeûne. Et donc, il n'est pas recommandé de dire, c'est pas grave, je vais encore attendre jusqu'à 19h30 ou je sais pas quoi. Non, non, il faut rompre dès le début, mais c'est pas une obligation, bien sûr. Je dis bien que c'est une recommandation.
Merci Moussa. Takfarinas est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Takfarinas.
Merci à vous, salam alaikum.
Alaikum salam.
Enchanté, Khoya.
Ça va, alhamdoulilah.
C'est joli comme nom, Takfarinas. Là, j'aime bien. Ça a une bonne sonorité.
Je pense que vous devez être origine, oui, j'allais dire, vous êtes d'origine algérienne kabyle.
Tout à fait.
Ah voilà. Oui, c'est kabyle, d'accord, je ne connaissais pas. Ah, bismillah, tfadal. J'aime bien aussi Ariles, le prénom Ariles chez les kabyles. Bon, ça, c'est une petite.
C'est vrai.
Oui, bismillah.
J'ai une question à propos d'un. J'ai fait un accident. Mm-hmm. Donc, chaque imam, comment il me dit, comment il me répond à ma question. Donc, je voulais avoir votre avis.
Allez-y, posez-la la question. Khalina les imams. Dis-moi, c'est quoi la question?
Alors, ma question, donc, j'ai fait un accident en 2016. Dans une.
Khalina, allez, t'as fait un accident. Et donc?
Départemental, il faut que je vous raconte l'accident et comme ça vous jugez. Donc,
d'accord.
Je sais pas. Donc, et du coup, cet accident, il y a un coup qui m'a sorti. Donc je l'ai percuté légèrement. Et au moment de me garer, il y a un camion qui m'a doublé et il a mis sous les roues. Donc après, la personne est morte sur le coup.
Mmh.
Et du coup, là, l'imam me dit qu'il faut venir deux mois. Il faut, voilà. Donc,
c'est-à-dire qu'on te considère que tu es toi à l'origine de cet homicide involontaire,
voilà.
C'est ça?
Voilà.
D'accord, oui, d'accord. Et c'était en 2016. Et tu n'as rien fait depuis?
Depuis, non. J'ai été chez ta famille.
Alors, une chose, est-ce que toi, tu considères que tu es à l'origine de cet homicide involontaire? C'est toi qui es responsable de cette mort? C'est toi qui as commis une erreur? Non, mais est-ce que tu as commis... J'ai pas dit si t'es coupable ou responsable. Est-ce que c'est toi qui es à l'origine de la mort de cette personne dans cet accident?
Moi, je suis la cause.
C'est-à-dire?
Parce que c'est moi qui l'a percuté en premier, il est tombé. Mais pas au point de mourir. C'était légèrement.
Donc, toi, tu l'as juste fait tomber et ensuite, c'est le camion qui l'a écrasé, c'est ça?
Tout à fait.
Donc, tu n'es pas responsable de la mort. C'est pas toi qui est à l'origine de cet homicide. C'est le chauffeur du camion. Éventuellement, qui est responsable, pas responsable, pas sous le coup de la loi, mais par rapport religieusement parlant, puisque chez nous, effectivement, il est dit qu'un homicide involontaire impose à ce qu'une personne, donc, soit jeûne deux mois d'affilée, ou bien s'acquitte d'une expiation de 300 euros, c'est-à-dire l'équivalent de 60 repas pour des pauvres.
Ouais.
Dans ton cas, écoute-moi, je te dis, il a un déchouer le quadra. Si tu as un peu de moyens, ouais. tu donnes l'équivalent de ces 300 euros là, qui correspond à 60 repas. Tu les donnes à une association, par exemple, je sais pas moi, Amatullah ou bien Secours Populaire ou là, je sais pas, une association qui donne aux pauvres, aux nécessiteux, par exemple les Restos du Cœur, et où tu vas acheter carrément des denrées alimentaires et tu les ramènes directement là-bas. Et alhamdoulilah, c'est quoi, inchallah. Astaghfirullah
azza wa jalla. Est-ce que je peux les donner à la mosquée de Paris, par exemple?
Non, la mosquée de Paris, si vous les mettez dans la caisse qui va redistribuer aux pauvres, oui. Je dis bien, il faut que ça arrive aux pauvres. C'est pas pour la mosquée, il faut pas donner pour la mosquée. Il faut donner à aucune mosquée, dis-je, ni mosquée de Paris ou la Rira. Vous donnez à destination des pauvres. S'il y a un intermédiaire entre vous et les pauvres, c'est une association qui va redistribuer. Pas de problème, si vous êtes sûr qu'elle va faire son travail correctement. D'accord?
Merci Takfar Inas. Allô l'imam, d'autres appels dans un instant au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et je vous rappelle que tout à l'heure à 18h, nous retrouverons Kamel Chekat pour sa chronique Les contradictions supposées du Coran. Allô l'imam au 01 53 48 3000. Je voudrais vous dire que sur ce plateau, nous avons Caroline Joutot. Bonjour et bienvenue Caroline.
Bonjour Philippe, merci.
Vous êtes thérapeute spécialiste des troubles du sommeil et de l'insomnie. On parlera un petit peu de conseils qu'on peut vous donner pendant ce mois de Ramadan pour justement essayer de lutter contre cette fatigue qui peut quand même nous envahir.
En tout cas, moi pendant le Ramadan, c'est mon problème. C'est pas la nourriture, c'est pas la soif, c'est le sommeil.
C'est le décalage horaire permanent.
C'est surtout le sommeil fractionné. Ah ça c'est... On découpe puisque nos nuits sont très mouvementées, très. Il y a beaucoup d'activités la nuit, puis on se lève pour manger avant l'aube, etc. Donc après on redort encore deux ou trois heures. Après on voilà. Donc c'est vrai que ce sommeil comme ça saccadé qui est pas très réparateur.
Voilà, on en parlera tout à l'heure. Alors nous avons Nassima qui est avec nous. Nassima, bonjour, bienvenue, bon Ramadan.
Merci à vous.
Marhaba, Nourti Nassima, on vous écoute, votre question?
J'ai deux questions, s'il vous plaît. J'ai perdu mon papa au mois de juillet.
Allah yarhamo salih.
Et le quatrième jour, j'ai rêvé de... Et il me disait, je vais aller faire ma prière. Il était content, il était heureux. Et quand j'ai regardé, j'ai vu une personne à côté de lui, mais c'était de dos. Et moi, je me disais, ah, papa... J'ai reçu par les salam, c'est ton coup, hein. Mm-hmm. Et après, il m'a dit, je vais aller faire ma prière. Je voulais savoir c'est quoi le... Vous savez c'est quoi ce rêve. Et aussi, la deuxième question, c'est que ça m'arrive beaucoup de pleurer. Et il me manque beaucoup. Du coup, je voulais savoir s'il y a Yves à cause de ça ou pas.
Bah écoutez, un être cher qui est parti, effectivement, peut vous... vous affliger, vous mettre dans parfois dans un état de tristesse, de nostalgie de le revoir. Inch'Allah, tchoufih fil jannah, inch'Allah ya Rab. Tetlaqa ma'a fil jannah. Et bien entendu, ce genre de rêve ne peut être interprété que de la meilleure des façons. Alors, je précise aux auditeurs que je ne suis pas spécialisé dans l'interprétation des rêves.
Ouais.
Il y a des spécialistes pour ça, mais c'est de bon augure, on va dire, ce qui peut, ce que l'on peut comprendre de ce rêve quand vous dites qu'en plus il avait à côté de lui le prophète et puis qu'il allait faire la prière, c'est que bon signe. En tout cas, sachez que quand on meurt, yurfa anna taklif, donc il n'y a plus d'adoration, il n'y a plus de responsabilité quelconque à avoir vis-à-vis de son créateur. On est dans un verger du paradis, dans sa tombe, dans cette antichambre qui nous attend avant d'aller au paradis, Inch'Allah. Et puis, Inch'Allah, en espérant que vous aussi, vous allez le rejoindre avec lui. C'est ce qu'il faut se dire. Vous dire, voilà, Inch'Allah, on va se revoir. On va se revoir. C'est pas définitif. Voilà, c'est pas pour...
Et pour les pleurs, c'est pas...
Alors les pleurs, c'est plus un problème de traumatisme psychologique. Hein. Vous avez perdu votre père, vous êtes peiné par sa disparition, il vous manque, c'est normal, c'est tout à fait naturel. En tout cas, pleurer, c'est pas interdit. Vous avez le droit de pleurer la disparition de votre père. Ce qu'il faut, c'est faut pas gémir, c'est faut pas qu'il y ait des cris, tirer les cheveux dans tous les sens, arracher les vêtements, etc. Il peut y avoir des gens comme ça qui ont des crises un petit peu sauvages, et ça non, ça c'est pas toléré. Mais lâcher des larmes, se rappeler de son père, oui, il y a pas de problème. Laissez-vous aller, en tout cas. Je suis sûr que Madame Caroline a quelque chose à ajouter par rapport à ça quand on est. Qu'est-ce qu'il y a mieux à faire? Est-ce qu'on doit se lâcher ou on doit...
En fin de compte, par rapport à la naturopathie, au fonctionnement du corps, quand on pleure, on cicatrise son cœur.
Mmh.
Donc il faut faire ce deuil et ça peut mettre des fois un an, 18 mois, un petit peu plus. Mais en fin de compte, il faut que ça sorte de cette façon-là. Parce que l'émotion, elle rentre par les yeux et puis elle sort par les yeux. Donc cette larme, c'est aussi se séparer de cette émotion et garder le positif.
Machallah, très bien.
Merci Nassima. Alors, on reste à Saint-Étienne avec Saïda qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue, bon ramadan.
Oui, salam alaikum, saham bankom. Voilà, cher, moi j'ai une question en fait par rapport à la zakat al-fitr. Est-ce qu'on peut la sortir un peu une semaine avant ou 10 jours avant pour des personnes qui ont vraiment besoin?
Oui, la réponse est oui. Allez-y.
D'accord. Et la deuxième question, c'était juste pour la lecture du Coran. Donc moi, je l'ai très très bien l'arabe. Mais quand je lis le Coran, des moments, j'ai des difficultés en fait à prononcer ou à lire les mots. Est-ce que
La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'impose à quiconque ce qu'il est capable de faire. Maintenant, vous êtes invité à évoluer, à progresser dans votre récitation, d'aller, pourquoi pas, suivre des cours chez des spécialistes, des qirat, etc. Il y a des instituts, il y a des professeurs qui font sur Internet. Il y a beaucoup, beaucoup de moyens pour améliorer sa récitation et continuer à progresser, c'est très bien. Et en attendant, vous continuez à lire avec les moyens que vous avez, avec les capacités que vous avez. C'est très bien. Jour-là, comme le dit le prophète, chaque lettre que vous lisez, c'est 10 hasanat. Il a 700 atidaf. Jusqu'à 700 fois sa valeur.
Ah ben merci beaucoup. Ah.
Je vous en prie, ma sœur. Allah yitqabbal wa yaj'alha fi mizan hasanat. Ramadan huwa shahr al-Qur'an. Il faut lire. Il faut lire et méditer. Lire et méditer la parole d'Allah Azza wa Jal.
Merci Saïda. Alors d'autres questions dans un instant. Allô l'imam, je rappelle que si vous voulez poser votre question à l'imam Abdelali Mamoun, eh bien vous composez le 01 53 48 3000 01 53 48 3000.
Ramadan Enco revient dans un instant.
Suivez Ramadan Enco avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Oui mes frères et vous.
Et oui, quand le rouge est rouge, ça veut dire qu'on est en direct, Imam Abdelali. 01 53 48 3000. Allô l'imam, on a Lina qui est avec nous. Lina, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bon ramadan.
Bonjour, salam alaikum.
Vous allez bien?
Marhaban. Et toi?
Ça va, alhamdoulilah.
Ahlan wa sahlan.
Nous passons un très bon ramadan.
Marhaba. Marhaba.
J'avais une petite question à vous poser.
Allez-y, on vous écoute.
Vu que j'ai fait le ramadan, mais que j'ai la piscine à l'école, est-ce que je peux le faire en ramadan même si je vais à la piscine parce que c'est obligatoire?
Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, il faut rien avaler. Hein, il faut, c'est pas interdit de se baigner dans un bassin. En tout cas, se baigner, c'est-à-dire baigner son corps dans l'eau, n'annule pas le jeûne. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas avaler la tasse, comme on dit.
Vous dites qu'il ne faut pas boire l'eau de la piscine.
Voilà,
enfin, je connais peu de gens qui boivent l'eau de la piscine.
Non, mais tu peux prendre boire la tasse, tu sais, Philippe.
Ah oui.
Par exemple, je ne sais pas, moi, tu fais un mouvement dans l'eau.
Mais c'est involontaire.
Ah oui, mais à ce moment-là, ça annule. Ça annule,
si c'est involontaire.
Bah, si c'est involontaire, on continue, mais normalement, voilà, en principe, on va rattraper un jour dans. Vous avez quel âge?
J'ai 11 ans.
Ouais, non, tu rattrapes rien, c'est bon. Alhamdoulilah. Écoute, moi, je te dis, à la rigueur, si tu vas à la piscine, vaut mieux ne pas jeûner. À la rigueur, tu jeûnes pas. Ce jour-là, okay. Tu jeûnes pas. Tu jeûnes un autre jour.
Ok.
D'accord? Tu jeûneras les autres jours, mais à 11 ans, il faut pas tout jeûner le mois. Hein. Il faut un petit peu se reposer un petit peu et profiter justement ces jours où il y a la piscine pour ne pas jeûner. Et tu rattrapes un autre jour parce qu'il y a beaucoup d'efforts physiques.
Mais il faut expliquer la règle parce qu'en fait, si on mange de façon involontaire, par exemple. Donc.
Non, mais c'est parce qu'elle a 11 ans que je dis ça.
Ah bon?
Elle n'a pas la puberté et l'obligation religieuse d'appliquer les règles de l'islam dans leur intégralité. Donc elle peut continuer à jeûner. Comme un exercice, effectivement, pour s'habituer jusqu'à atteindre l'âge de la puberté. Mais en attendant, il faut pas trop. C'est des enfants, hein, un enfant de 11 ans, il faut pas trop forcer. Il faut y aller mollo, en douceur.
Mais moi, j'essayais de comprendre la règle. Si on mange de façon involontaire, par exemple un soir, parce qu'on oublie qu'on fait le jeûne.
Oui.
Donc ça annule pas le jeûne.
Alors il y a deux avis. C'est pour ça que c'est compliqué. Oui. C'est qu'il y a un avis majoritaire qui dit que ça annule, et il y a un avis minoritaire. Pour ne pas rentrer dans les détails des écoles juridiques et des avis de tout ça. En tout cas, Omar Khattab, par exemple, a considéré, comme toi tu le dis, que ça n'annule pas. Et de manger involontairement ou de manger en pensant qu'il y a eu le coucher du soleil, par exemple. Ou que l'aube n'a pas encore déclenché. Il y a des gens, par exemple, qui continuent à manger. Par exemple, l'aube, c'est à 5h40, par exemple, 5h35, on va dire. Et lui, il a oublié l'heure, il continue à manger, il regarde la montre, il voit qu'il est moins quart. Donc, il a mangé. Eh bien, la majorité vont dire qu'il devra rattraper cette journée. Et il y a une minorité de savants qui dit non, il ne rattrape pas. Il n'avait pas l'intention, il pensait que ce n'était pas encore l'heure. Donc, à partir du moment où son intention, c'est de penser qu'il n'était pas encore l'aube... Donc, il n'a pas à rattraper cette journée.
C'est pour ça que je vous disais, quand vous baignez, vous n'avez pas l'intention de boire la tasse.
En effet, c'est de la même manière que, par exemple, quand tu fais les ablutions, que tu mets de l'eau dans la bouche, ou tu veux, par exemple, faire un gargarisme, par exemple, et puis que l'eau, elle passe quand même. Eh bien, selon la majorité, vous rattrapez. Selon une minorité, vous ne rattrapez pas. Donc, moi, je dirais, ne rattrape pas. Surtout, cette jeune fille de 11 ans n'a pas à rattraper son jeûne, puisqu'elle n'a même pas l'obligation de le faire.
Merci Lina. Alors nous avons Yacine qui est avec nous. Yacine, bonsoir, bienvenue et bon ramadan.
Salut, salam alaikum. Merci,
salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Alors cheikh, j'ai appelé la semaine dernière, vous avez posé deux questions. Moi par rapport à la prière, comme je vous avais dit, si vous vous souvenez bien, j'ai commencé depuis l'année dernière. Donc je ne m'y connais pas très très bien. Donc du coup je voulais savoir par rapport à la prière, la Aïcha, quand on fait le chef Witr, qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi comme sourate qu'il faut réciter ou...
Pour la salade de chef Al-Witr?
Oui.
Alors, la première raka'a, la première unité, vous faites la Fatiha et Sabbih, sourate Al-A'la, si vous la connaissez. D'accord. Si vous la connaissez. سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى etc. C'est un peu long. Elle est un peu long. En tout cas, moi je te dis l'idéal. L'idéal c'est سورة الأعلى dans la première raka'a. La deuxième raka'a, قل يا الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة. Et après là tu fais salam et après tu te lèves pour la troisième, on est bien d'accord. Dans la troisième, la Fatiha avec Qul Huwallahu Ahad.
Ça c'est la prière de l'éveil, hein.
C'est la prière, la dernière prière du soir. C'est la toute dernière avant de dormir. C'est-à-dire quand tu veux prier la nuit, tu pries tout ce que tu veux, mais c'est celle-là que tu termines, qui parachève la soirée de prière, notamment pendant le Ramadan ou même en dehors du Ramadan. Ça s'appelle la prière de l'Witr. L'Witr, pourquoi ? Parce qu'elle est impaire. Elle est composée d'une seule unité ou de trois selon les écoles. Bref, c'est impair. Un, trois ou cinq, etc.
Bien, voilà Yacine pour votre question. Alors, on reviendra dans un instant avec vos questions au 01 53 48 3000. Mais vous le savez, tous les soirs à 18h, nous accueillons Kamel Chekat, chercheur en théologie et membre fondateur des Oulémas du Sahel, pour sa chronique « Les contradictions supposées du Coran ». Bonsoir et bienvenue, Kamel.
Marhaban. Wa alaykoum salam, Cheikhan al-Fadil. Kayfa haluk?
Salam alaykoum, monsieur Happy, vos invités. Alhamdulillah, on fait aller.
Marhaban, ahlan, ahlan.
Alhamdulillah.
Alors aujourd'hui, c'est quelle contradiction supposée que tu vas nous soulever?
Alors, quand vous lisez le Coran, verset 62 de Sourate Al-Baqara nous dit, certes ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, ici le Nazaréen, ici chrétien, et les Sabéens, alors les Sabéens, c'était des monothéistes, des gens qui croient en Adam, Seth, Enoch, Noé, Sem, fils de Noé, etc. Il en existe toujours en Irak, un peu en Palestine, etc. Et donc, le verset dit, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Ça veut dire que c'est toutes ces catégories citées sont, on va dire, promises à un bonheur éternel. Le verset 69 de Sourate Al-Maïda revient aussi sur toutes les adeptes de toutes ces religions, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les abéens, les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah, où je permets d'accomplir les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux et ne seront point affligés. Alors, après la lecture de ces deux versets, on nous dit, ces versets indiquent donc que les musulmans, les juifs et les chrétiens, en plus des adeptes d'autres religions, sont donc iront au paradis. Mais d'un autre côté, le verset 85 de Sourate Al-Imran nous dit, « Amayyub tarirayra l'islam et dinam salayyukba lakour wa fil akhirati min al-fatihim » et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et donc, pour beaucoup, il y a une contradiction ici. Alors, revoyons un peu le premier verset, qui est le verset 62 de Sourate Al-Baqara. Ce verset intervient au beau milieu du récit d'une des parties du récit de Moïse sur lui. Et après avoir justement fait rappeler aux Hébreux leurs innombrables rébellions, tout comme cela est cité dans la Bible, l'adoration du veau d'or, par exemple dans le Coran, le fait qu'il ne se contentait plus de la manne et des cales, qu'il voulait d'autres nourritures, etc. Le verset tombe pour le rappeler que l'essentiel, c'était de faire les bonnes œuvres et d'être conforme à leurs prophètes, comme l'ont été beaucoup de juifs, de chrétiens, de sabéens, et tous ceux qui ont non seulement cru en Dieu au jour dernier, mais ont fait des bonnes œuvres. Pour le second verset cité, qui est le verset 69 de Sourate Al-Maïda, et qui nous parle aussi, qui revient aussi, qui parle de tous ces gens qui ont cru en Dieu, qui ont été conformes aux prophètes, il intervient. Après une sorte de réquisitoire, de diatribe essentiellement contre les juifs. Et à un moment donné, le verset qui le précède dit « Ô gens du livre et à la kitab, vous ne tenez sur rien. tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Est-ce qu'il vous a été descendu de la part de votre Seigneur? Et c'est ce qui t'a été descendu, il s'adresse à Mohammed, de la part de ton Seigneur, va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ce n'est que tourmente, donc pas pour les gens mécréants. Donc le verset qui cite les Sabéens, les chrétiens, les juifs, qui étaient conformes à leur écrit et à leur obéissant à leur prophète, là, le Coran le renonce comme un défi consistant à mettre en pratique ce qui se trouve dans la Torah et l'Évangile. Or, nous sommes à une période de l'histoire où l'Évangile et la Torah n'existaient plus. Il y avait d'autres écrits qui les avaient remplacés. Donc, quand on place bien ces versets dans leur contexte et quand on lit le verset qui dit que quiconque désire une religion, ce que l'islam ne sera point agréé, il sera dans les delà parmi les perdants, il n'y a plus de contradiction entre les textes qui sont soumis ici, justement, pour relever une contradiction. De l'autre côté, quand on lit le même quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, il sera dans les delà parmi les perdants. Il y a un certain nombre de versets dans le Coran qui reviennent justement sur le fait de se détourner de l'islam pour prendre ou pour adopter une autre religion. Là aussi, ce verset combiné avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentique, « Bad Benadine al-Fartoulo, quiconque change de religion, tuez-le », quand on fait une compilation de tous ces textes fondateurs, il ressort que l'apostat, on ne doit en aucun cas le tuer, sauf vraiment dans des cas d'exception, en temps de guerre et quand il y a trahison, ce qui se fait même dans les idéologies autres que toute religion connue. Donc c'est aussi un verset qui ouvre un débat qui est très 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 pointu entre les juristes musulmans. Donc voilà, il n'y a pas de contradiction là encore entre les versets qui nous sont soumis concernant tous ceux qui iront au paradis, d'autant plus que ceux qui étaient conformes aux grands prophètes que nous connaissons, nous les considérons, nous musulmans, comme étant frères en religion, donc il n'y a pas de contradiction. Voici donc pour la contradiction supposée d'aujourd'hui. Merci.
D'accord. Et donc, si je résume bien pour que les auditeurs comprennent de manière claire et limpide, le verset 62 qui dit que les croyants, les chrétiens, les juifs, les sabéens qui croient en Dieu et qui font des bonnes actions ne seront en aucun cas affligés, donc ça veut dire qu'ils iront au paradis.
Mais attendez, nous parlons.
Falahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa lahum yahzanun.
Oui, attendez, il y a un point qu'il faut que tout le monde prenne en ligne de compte. Quand vous étudiez le texte fondateur des Juifs, pour un Juif religieux, il n'y a que le Juif qui ira au paradis. Même le chrétien n'y a pas droit, encore moins le musulman. Quand vous lisez les grands apologistes, les pères de l'Église, tout ce qui n'est pas chrétien, et par moment même catholique, est considéré comme infidèle, donc il n'a pas droit au paradis. Si vous voulez, dans l'islam, tous ceux qui n'adhèrent pas à l'islam, tel que rapporté ou apporté par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne pas au paradis, selon le texte. Mais nous n'avons aucun droit de dire, par exemple, quelqu'un qui est mort juif, un tel qui est mort chrétien ou bouddhiste ira en enfer. Ça, c'est du ressort exclusif de Dieu. Le verset 62 de Sourate al-Baqara et le verset 69 de Sourate al-Maïda, qui nous parlent des Juifs, des Sabéens et des Chrétiens, nous parlent de ceux qui étaient fidèles à la religion de Dieu subhanahu wa ta'ala, telle qu'apportée par les prophètes connus, tels que Moïse, Jésus, Enoch, Abraham et j'en passe. Il y en a beaucoup. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre le verset. Et donc, à partir de là, nous, ce qui nous importe le plus, c'est qu'il n'y ait pas de contradiction entre les textes, quand on lit le Coran. Et il n'y a pas de contradiction, contrairement à ce qui est soulevé.
Non, mais la question, Ustaz Kamel, Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens et les juifs qui vivent leur foi telle qu'on la connaît aujourd'hui, il n'y a pas besoin de chercher à tergiverser, et qui font des bonnes actions et qui croient au jour de la résurrection, est-ce qu'ils ont une chance d'aller au paradis? C'est ça la question, c'est très simple. Il y a des milliards de chrétiens, 1,5 milliard de chrétiens dans le monde, 1,9 milliard même, je dirais. Il y a 15 millions de juifs qui sont où il y a aussi beaucoup de gens monothéistes, qui sont un petit peu dans la religion sabéenne. Est-ce que s'ils font des bonnes actions, comme le dit le verset, ils ont une chance d'aller au paradis?
Nous ne le savons pas. Je viens de vous le dire, c'est du ressort de Dieu. Même si vous me posez la question concernant des musulmans, est-ce que les musulmans qui pratiquent l'islam et qui font des bonnes actions et des bonnes œuvres, est-ce qu'ils iront au paradis? Nous ne le savons pas. C'est du ressort exclusif de Dieu. C'est pour cela qu'une bonne foi, quand est-ce que quel est le critère? Donc sur quoi pourriez-vous vous baser pour savoir si vous êtes vraiment sur le droit chemin ou pas? Le vrai croyant est celui qui se préoccupe et ne se mêle que de sa propre foi et non de celle des autres. C'est pour ça que maintenant les juifs et les chrétiens, est-ce qu'ils iront au paradis? Nous parlons de ceux d'aujourd'hui. Nous avons face à nous deux obédiences, deux religions. Je suis désolé de le dire de manière aussi crue, mais quand on fait une étude critique des livres fondateurs de ces deux religions, nous sommes plus que sûrs que ces deux livres ou ces deux écrits avec la toute cette addition des livres, c'est pour ça qu'on les appelle des Bibles, n'ont pratiquement rien à voir avec l'original. Et à partir de là, est-ce que ces gens-là sont vraiment sur la bonne trajectoire ou pas? Nous, musulmans, nous disons clairement. Mais pour le reste, est-ce que ces gens-là iront au paradis ou en enfer? C'est à Dieu de juger. Nous n'avons aucun droit d'intervenir là-dessus. Et puis nous avons ce fameux hadith qui concerne cet homme qui a dit, qui parlait de quelqu'un qu'il connaissait, d'une personne qui était peut-être en déviation totale, et il dit par Dieu, Dieu n'absoudra jamais un tel. Et Dieu, c'est un hadith qudsi, un hadith divin, et c'est Dieu qui parle, qui répond et qui dit, qui veut m'obliger par son serment à ne pas absoudre un tel? Eh bien, je l'ai absous et à toi, j'ai annulé toute ton œuvre. Ce sont là des questions très, très dangereuses. Et même quand nous avons affaire à des gens qui meurent peut-être, je ne sais pas moi, un communiste qui se dit athée, qui meurt mécréant. Nous sommes dans un devoir de réserve. Nous pensons qu'un tel est promis au paradis, qu'un tel pourrait, les choses pourraient aller mal pour lui, mais c'est quelque chose que nous devons garder en nous-mêmes. Ça ne doit en aucun cas être publié. Nous n'avons pas le droit de décider du sort des gens à la place de Dieu. Est-ce que ça répond à votre question?
Oui, 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 tout à fait. Donc finalement, on ne se prononce pas.
Bien, ben, en tout cas, très belle intervention. Merci Kamel, et on vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain. Alors 01 53 48 3000, nous avons Inaya qui est avec nous. Inaya, bonsoir, bienvenue et bon ramadan.
Bonsoir.
Bonsoir Inaya. Alors, est-ce que tu as une question Inaya?
Salam alaikum.
Alors, on a entendu Inaya, mais bon, après...
Oui,
oui,
allô?
Oui, vas-y.
J'appelle pour...
On t'écoute, Inaya.
Allô? Ah, c'est compliqué. Inaya?
Oui.
Oui,
j'appelle pour le jeu.
Ah non, c'est trop tôt pour le jeu. C'est beaucoup trop tôt pour le jeu. De toute façon, pour le jeu, il faut appeler 3 minutes avant. Donc, voilà. Alors, nous avons Mounia qui est avec nous. Mounia, bonsoir, bienvenue, bon ramadan.
Bon ramadan, merci.
Bonsoir.
Alors, j'ai une question par rapport à la Mecque, enfin à l'Umra, précisément.
Mm-hmm.
Alors, est-ce que le fait d'aller à l'Umra pendant le jeûne, c'est équivalent à aller à la Mecque?
Alors, pas pendant le jeûne, dans le mois du ramadan, vous voulez dire?
Pendant le mois du ramadan.
Alors, il faut savoir que le ramadan, Dieu, dans sa grande générosité, dans sa grande gratitude, fait que tout acte surérogatoire est récompensé comme un acte obligatoire. On est bien d'accord que la umra est un acte surérogatoire? Oui. C'est récompensé comme un acte obligatoire. Qu'est-ce qu'on appelle un acte obligatoire quand on parle de visite de la Mecque? Qu'est-ce qui est obligatoire en matière de visite? C'est le Hajj. C'est bien le Hajj, on est d'accord. Le prophète dit Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Une Umra pendant le Ramadan équivaut à un Hajj avec moi. Il précise même avec moi. Donc, toute action que vous faites qui est un acte surérogatoire, donc qui est payé, donc qui est récompensé moindre qu'un acte obligatoire, est pendant le Ramadan récompensé comme un acte obligatoire. Vous avez compris?
Donc, en fait, on peut aller pendant le mois du Ramadan au Umra, ça sera équivalent au Hajj.
Et de la, en analogie de toutes les actions que vous faites pendant le mois du Ramadan, que vous faites qui sont surérogatoires et qui sont récompensés comme un acte obligatoire.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on a fait le pilier?
Non, ça ne veut pas dire qu'on a fait.
C'est la récompense. De récompense. La récompense est la
même. On n'est pas exempté. Voilà. On n'est pas exempté de faire le Hajj.
On
n'a
pas fait. On n'a pas fait le pilier.
Pourquoi? Parce que le prophète dit. Le prophète dit al Hajj, le vrai Hajj, qui est le cinquième pilier de l'islam, c'est Arafah. C'est le fait d'être à Arafah, le jour de Arafah. Est-ce que quelqu'un qui, pendant le Ramadan, fait une Umra, est-ce qu'il a été à Arafah le jour de Arafah? Non. Donc, il n'est pas Hajj. Il n'a pas fait son cinquième pilier. Mais il a une récompense. Il a une récompense d'un Hajj. C'est deux choses différentes. Il y a la récompense spirituelle et il y a l'ordre juridique, c'est-à-dire l'injonction divine.
Très bonne question. Mouna, 01 53 48 3000. Si on a un peu de temps tout à l'heure, on prendra d'autres questions. Et tout à l'heure, après une courte page de publicité, nous retrouverons Ousmane Timera.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Peur FM.
Voilà, tout le monde est en train de regarder ce qu'il y a à manger pour ce soir, parce que c'est vrai que comme il y a beaucoup de circulation, on aura des fraises. Voilà.
Non, il n'y aura pas que des fraises, il y aura de la soupe.
Il y aura de la soupe et des fraises.
Il y aura du felfel, il y aura du babaranouche.
Est-ce que du pain?
Oh, le pain, bah écoutez.
Pour tremper dans la soupe?
Même pas.
Ah bon?
Parce qu'il m'a dit, Ahmed, que tu ramènes pas de pain, parce que sinon on va y avoir du gaspillage et que tu vas ramener le nécessaire.
D'accord. Bon, de toute façon, on va s'en sortir.
Très bien.
Imam Abdelali, quoi qu'il arrive.
Tout à fait.
De toute façon, on risque pas d'être dénutris.
Non, on va pas mourir de faim.
Non, on n'est pas guettés par la dénutrition.
On est loin de la situation de beaucoup de gens dans le monde souffrent vraiment.
Donc, quoi qu'il arrive, ça sera très bien. Ça sera très très bien. Alors, on a Nesrine qui est avec nous parce que alors on essaie d'avoir Ousmane Timera qui est à l'extérieur aujourd'hui. On n'arrive pas à la voir, mais on a Nesrine qui est avec nous.
Il nous a oublié.
Non, il est en conférence aujourd'hui, Ousmane Timera. Alors, Nesrine est avec nous. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, Nesrine.
Je vous remercie tout d'abord pour votre émission et je voulais compléter l'intervention de ma sœur Linda, qui n'a pas eu le temps de vous le dire, qu'elle aimait particulièrement votre binôme, qu'elle vous trouvait complémentaire.
Bah, c'est gentil, merci.
On a un vieux couple. On est un vieux couple aussi, vous saviez.
Ah, voilà, moi et Philippe,
on a des heures de radio ensemble.
On a des heures de radio.
Ça s'entend.
Des jours presque, maintenant on peut dire des mois.
Alors Nesrine, quelle est votre question?
Alors j'avais une question, je voulais savoir quel était le statut de la femme qui retire son hijab pour travailler, sachant que c'est un emploi à responsabilité, mais dans un cadre où elle n'est pas très exposée. Enfin, je peux faire en gros ma prière dans mon bureau. J'ai des jours de télétravail. Et voilà, je ne suis pas dans un milieu très masculin, on va dire.
Moi, je dis la règle, c'est comme le dit le verset du Coran, « La yukallifullahu nafsan illa usaha ». Dieu n'impose à quiconque que ce qu'il est capable de faire. À partir du moment où ça devient une contrainte pour vous, ben écoutez, vous faites ce que vous avez à faire. Et puis en dehors de ça, ben vous respectez, vous observez au mieux les préceptes de l'islam. L'intégralité des préceptes de l'islam doit être respectée. Et au mieux dans la vie, au mieux de ce qu'on peut faire dans la vie. Alors, par exemple, un enseignant ne peut pas porter le voile, un fonctionnaire pareil ne peut pas arborer de signes religieux. Et d'abord, je ne vois pas pourquoi on l'appelle un signe religieux. C'est pas un signe religieux. Je rappelle que le voile n'est pas un signe religieux. C'est une tenue qui est exigée par signe de pudeur. Mais c'est pas un signe d'appartenance religieuse. On ne met pas un voile pour dire qu'on est musulman ou musulmane. Comme les hommes ne mettent pas de chichia ou du babouche ou de djellaba pour ça. Il n'y a pas de signe religieux en islam. On n'a pas de symbole qui signale la religion. Même le croissant, Hein, par exemple, quand on parle des juifs, on a l'étoile de David. Quand on parle des chrétiens, on a la croix. Mais même ce croissant qu'on assimile à l'islam n'a rien à voir avec l'islam. C'est purement, ça vient de Constantinople. C'était l'empire de Constantinople qui avait été fondé par Constantin Ier, qui était l'empire byzantin, qui avait comme dans son drapeau le croissant qui a été récupéré plus tard par les Ottomans. Mais ça n'a, et les Ottomans, donc les Turcs, qui après ont colonisé le monde arabe, et c'est là où est-ce que le croissant est devenu un symbole.
Alors,
du monde arabe.
Je vous fais des signes parce qu'en fait on a récupéré Ousmane Timara, on ne le prend pas maintenant, on sera coupé par la publicité. Alors Nesrine, vous restez en ligne avec nous, on vous récupérera tout à l'heure. Alors Ousmane Timara est avec nous, bonsoir Ousmane, et avec vous, tous les soirs on rêve de tous de changer le monde.
Oui, que la paix soit sur vous. On rêve tous de changer le monde, et c'est un devoir qui incombe à chacun et à chacune d'entre nous. Et inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas la situation d'un peuple tant que les membres de ce peuple ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Une conversation m'a interpellé récemment. Je discutais avec un jeune homme fort intelligent, fort intéressant et ma foi très aimable. Et nous parlions de Dieu. Et ce dernier nous disait que, au fond, l'univers pour lui presque existait de tout temps, ou qu'il y avait des multivers. En tous les cas, il n'arrivait pas ou ne voulait pas aboutir à l'idée qu'il y avait un créateur, un sens à ce monde, et qu'on ne pouvait pas parler, donc, en conséquence, d'une infinie du monde qui aurait existé de tout temps. Dans nos discussions, je lui dis, mais la science nous dit qu'il y a la deuxième loi de la thermodynamique qui indique qu'un jour viendra où la dynamique qui fait que le monde est, s'estompera, et qu'on parlera donc de fin de l'univers. Et que les scientifiques et les philosophes en ont tiré toutes les conséquences. S'il y a une fin possible à l'univers, nécessaire en tout cas tel que la science nous montre, cela veut dire que le monde a débuté. Car s'il était ainsi et existait de tout temps, donc il aurait fini par ne plus exister et nous ne serons pas là. Deuxième point scientifique, c'est bien sûr la théorie du Big Bang. L'univers a débuté en un point singulier, une singularité à partir de laquelle une explosion, qu'on a fini par appeler le Big Bang, a créé l'univers dans lequel nous nous trouvons à partir de règles infiniment déterminées, préétablies en même temps ou avant même l'existence du monde, et parler d'avant l'existence du monde est quelque chose de bizarre. En tous les cas, tous les chiffres, tous les calculs infinitésimales étaient présents au moment du Big Bang pour que le monde et l'existence et l'univers existent tel qu'il est, nécessitant le fait qu'il y ait forcément un auteur, un fondateur de ces règles qui étaient là au début même de l'explosion cosmique qui donna naissance à notre monde et qui fait que le monde est en expansion, qu'il continue de s'étendre, comme d'ailleurs le dit très bien le Coran, et le ciel, nous l'avons créé avec force et nous continuons de l'élargir. Donc dans ces discussions avec ce jeune homme, je vois qu'il refuse ou n'entend pas ce qui me semblait être, en tout cas scientifiquement, prouvé. Et je me suis fait cette réflexion. Auparavant, il y a 2 siècles, on avançait la science pour dire à ceux qui étaient des superstitieux religieux traditionnalistes qu'ils étaient dans l'erreur, que la science, grâce au comment de la création ou de l'existence de l'univers qu'elle nous montre, eh bien, nous faisait que nous pouvions nous passer de Dieu. Aujourd'hui, cette même science que nous utilisons fait que ceux qui étaient dans la position de la non-existence de Dieu déraisonnent, je dirais, se dérèglent et se mettent à penser et à réfléchir ou à croire en des superstitions telles que le multivers, telles que la possibilité que le temps est infini, alors que nous savons que philosophiquement, nous savons que scientifiquement, cela n'est pas vrai. Philosophiquement, c'est impossible, l'infini n'existe pas. Quelque chose ne peut pas exister infiniment parce que si nous existions, le monde existait infiniment, eh bien dans l'infini du passé, nous n'arriverons jamais à notre présent d'aujourd'hui, donc on n'existerait pas. Or si nous existons là, c'est qu'il y a eu un début et qu'il n'y a pas d'infini.
et qu'il y a une fin. Et donc, on voit des personnes qui se disent scientifiques ou qui se disent scientistes ou qui se disent faire confiance en la science complètement déraisonnées et ne pas tenir compte de ce que dit la science. C'est étrange. C'est bizarre. Donc, cela veut dire qu'il y avait une idéologie et non pas une volonté de connaître la vérité. On a fait du scientisme une religion au détriment de la science et de ce qu'elle nous montre. Enfin, je réfléchissais encore à ce jeune homme bien gentil, avec qui vraiment la conversation a été agréable, et je me suis rendu compte d'un autre point. Je me suis rendu compte que notre jeunesse...
Alors, Ousmane, je sais que vous allez développer, mais on va être coupé. Donc, si vous avez un développement, soit il faut patienter, mais là, on ne peut pas prendre de développement. Comme on est un tout petit peu pris par le temps, vous voyez, ça va être un peu court ce soir, Ousmane.
C'est pas grave, c'est ça pour une autre fois.
Bon, d'ailleurs, je me demande où vous allez chercher tous ces sujets.
ça me dit quelque chose.
Ouais, ça me dit quelque chose. Ousmane, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain. Vous êtes en conférence et c'est pour ça que vous n'êtes pas avec nous sur ce plateau.
C'est très intéressant ce qu'il dit quand même.
19h11 pour l'ADN en direct. Alors, c'est vraiment en direct. Hein. L'imam fait l'ADN en direct.
Ramadan & Co. revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co. avec le Secours Islamique France.
17h-20h. Ramadan & Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Beurre FM. Ramouvision. Le Coran en arabe et sa traduction en français.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
Et si vous êtes tué dans le sentier d'Allah, ou si vous mourrez, un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent.
وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ.
Que vous mouriez ou que vous soyez tué, c'est vers Allah que vous serez rassemblés.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن
C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que Mohammed, tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance.
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour de la résurrection. Alors, à chaque individu, on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis, et ils ne seront point lésés.
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux d'Allah? Son refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination!
هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.
Ils ont des grades différents auprès d'Allah et Allah observe bien ce qu'ils font.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident.
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
Quoi? Quand un malheur vous atteint, mais vous en avez jadis infligé le double, vous dites « D'où vient cela ?» Réponds-leur « Il vient de vous-même. » Certes, Allah est omnipotent. Et tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par permission d'Allah et afin qu'il distingue les croyants.
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
Et qu'ils distinguent les hypocrites. On avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah ou repoussez l'ennemi. Ils dirent, bien sûr que nous vous suivrons si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur. Et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient.
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
Ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, si nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Dis, écartez donc de vous la mort si vous êtes véridiques.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm. Beurrefm. Le Ramadan, 30 jours avec vous.
30 jours avec vous.
De l'ambiance.
Oui.
Ouais.
Vous savez que quand c'est rouge, Imam Abdelali, c'est que vous êtes à l'antenne. Hein.
Oui.
J'ai dit oui.
Vous avez dit oui.
J'ai dit juste
vous avez
oui.
dit oui.
J'ai dit le mot oui. Est-ce que vous m'entendez dire autre chose?
Non.
Bon, bah,
non.
Ça va.
Vous avez dit oui. Allez, tous les soirs du mois de Ramadan, mot le patron vous gâte. Si vous êtes l'auditeur VIP du jour, vous pourrez repartir avec une télé connectée de 32 pouces ou un aspirateur, un robot aspirateur, pardon, et pas un aspirateur robot. Donc pour ça, il faudra au top départ tout à l'heure qu'on vous donnera, nous appeler au 01 53 48 3000. Si vous êtes tiré au sort, c'est vous qui terminerez la journée avec nous. Je vous rappelle que mot le patron, c'est 4 adresses en France, Imam Abdelali. Hein, vous les connaissez par cœur.
Alors, on va dire Oni, c'est à côté de Cergy, dans le 95.
Ouais.
Bichelet, à côté de Mantes-la-Jolie, dans le 78. Aucanville,
oui.
C'est ça, donc à côté de Toulouse.
Très bien.
Et puis enfin, Tourcoing.
À côté de Tourcoing.
À côté de Tourcoing ou Tourcoing?
Non, Tourcoing.
C'est Tourcoing, c'est voilà, pas à c'est côté ça. De Tourcoing.
Et puis, vous pouvez télécharger l'application Mot le patron gratuitement.
Mais c'est dans le coin à côté, là, juste à côté de
la tour. À côté
de la tour, voilà, c'est ça.
Bien, on vous dira. Ça sert à rien d'appeler maintenant, hein. Faut appeler à la dernière minute. On vous donnera le top départ, donc, pour repartir avec ce cadeau. Bien, Caroline Joutot est avec nous. Elle est thérapeute spécialiste des troubles du sommeil et de l'insomnie. Caroline, c'est vrai que le mois de Ramadan, c'est un mois où le sommeil est assez désorganisé. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme aujourd'hui comme conseil à ceux qui nous écoutent et qui ont l'impression de traîner leurs pieds toute la journée?
Alors, vous voulez avoir des renseignements, comment bien dormir la nuit, comment moins traîner la journée?
On est fatigué toute la journée et quand on est dans son lit, on n'arrive pas à dormir.
Non, je préfère moi par rapport au sommeil, comment faire en sorte, surtout quand on a un sommeil
fractionné,
saccadé comme ça, comment gérer le mois du Ramadan, parce que c'est vrai que c'est compliqué.
Alors, le sommeil, il est régi par des règles physiologiques. Donc, quand on mange, l'organisme sécrète des éléments pour justement amener tous les aliments dans les organes. Donc, ça va augmenter cette température. Donc il faut savoir qu'entre le moment où on commence le repas et jusqu'à 2 heures après, on ne peut pas tomber dans le sommeil parce que justement ça augmente cette température corporelle, parce que justement il y a ce nettoyage et cette régénération et cette digestion qui se mettent en place. Et donc du coup, il ne peut pas y avoir de sécrétion de mélatonine.
Donc, la mélatonine qui est l'hormone.
L'hormone du sommeil, qui est le précurseur justement pour descendre cette température d'un degré et demi pour pouvoir derrière dormir. Donc dans l'idéal, quand on mange, c'est de manger relativement léger, avec des féculents, avec des légumes verts, avec du bon gras, parce que le cerveau a besoin de bon gras pour fonctionner et donc pour dormir.
Alors où on trouve le bon gras?
Alors on trouve essentiellement le bon gras dans le poisson. Dans le maquereau, dans le thon, dans les sardines, dans les huiles aussi, les huiles végétales. Alors,
c'est pas l'oméga...
L'oméga 3.
Oméga 3, d'accord.
Il y a oméga 3, il y a oméga 6. Mais c'est important d'avoir du bon gras pour le cerveau, parce que le cerveau, c'est la matière la plus grasse de tout le corps. Donc on a besoin de ce bon gras pour pouvoir bien s'endormir.
C'est vrai que quand je mange de la cervelle, Philippe, t'as une consistance assez grasse quand on mange, tu sais, la cervelle.
Ah, c'est très gras, parce que le cerveau est gélatineux. C'est très très gras le cerveau. Donc, alors, nous, c'est tout ce qu'on fait pas déjà. Tout ce que vous venez de dire, on le fait pas.
Nous, à la rupture, c'est soupe, plat de résistance.
Alors soupe, c'est génial parce qu'il faut, un apport hydrique. Parce que quand on est en jeûne toute la journée, on a besoin de se rééquilibrer au niveau des cellules, au niveau hydrique. Donc la soupe est un bon apport. Alors dans la soupe, qu'est-ce que vous mettez dans la soupe? Vous mettez
des légumes.
Donc ça, c'est parfait. Donc ça hydrate.
Un peu de viande.
Un peu de viande, c'est nickel.
Après, il y a des épices.
Ok.
Et puis un peu de semoule.
Okay. Ah,
différentes formes de semoule, soit farine, soit chicha, comme on dit chez nous, chicha. Alors c'est de la semoule un peu plus.
Alors tout ça est correct pour un dîner correct, pour justement avoir cet apport nutritionnel parce qu'on a jeûné toute la journée. Il faudrait juste être un petit peu dans la modération par rapport aux épices. De manger trop épicé va empêcher cette sécrétion de mélatonine.
Alors c'est pas quelque chose qui est piquant, hein, quand on dit épicé.
Ah bah alors c'est okay.
Ça veut pas dire que c'est piquant. Ça veut dire que ça sera par exemple curcumin, ça sera du cumin.
C'est parfait.
Voilà.
En plus, le cumin, ça aide à la digestion, donc c'est parfait. Donc, pour accompagner tout ça, l'idéal, ce serait aussi de boire de l'eau pétillante.
Ah, pétillante,
oui.
D'accord.
Parce que l'eau pétillante va permettre...
Badois, Perrier, voilà, etc.
Va favoriser cette digestion et va en plus anesthésier le cerveau, parce qu'au niveau, donc, quand l'eau est assimilée, ça se transforme en dioxyde de carbone, et quand ça passe au niveau du cerveau, ça fait un effet anesthésiant. Donc, il est préférable de boire de l'eau pétillante avec le dîner, et de savoir qu'entre le début du dîner et à peu près 1h30, 2h après, on va avoir ce pic de sécrétion de mélatonine, où on va savoir que derrière, on peut s'endormir dans les 20 minutes. D'accord. Donc on va trouver un bon rythme de sommeil malgré le fait qu'on ait dîné, qu'on ait cet apport hydrique pour favoriser un endormissement rapide.
Alors si on regarde l'horaire d'aujourd'hui, par exemple si on parle de manger à 7h15 oui. à peu près, on va terminer de manger aux alentours de 8h.
Oui.
8h, on va pas dormir, c'est 8h30, on va commencer peut-être à aller à la prière de Tarawih. On va veiller jusqu'à 9h, au oui. moins jusqu'à 9h, voire même jusqu'à 9h30.
Au moins, oui. Ouais.
9h, et le temps d'arriver à la maison et d'aller s'allonger et de commencer à dormir, 9h30, 10h.
Alors normalement, donc 7h15 plus 2h, ça fait 8h15, 9h15. Et à partir de 9h15, on a à peu près une demi-heure pour la sécrétion de mélatonine, et après on a 20 minutes. Donc ça fait 9h15, ça fait 10h moins quart. Donc à partir de 10h, on pourrait avoir ce pic de mélatonine avec de la frilosité qui permet de tomber dans les bras de Morphée. Donc si ça correspond à
alors,
vos
horaires...
Alors
les bras de Morphée, pour les gens qui n'ont pas compris, c'est-à-dire un sommeil profond.
C'est de s'endormir. Enfin, c'est pas d'accord. profond tout de suite, mais c'est de pouvoir s'endormir facilement.
Facilement.
Parce que mmh. l'heure, elle est propice.
Et donc de 10h, les gens en général vont se réveiller vers 5h, ou non, plutôt 4h30.
Un peu avant, oui.
Ouais, 4h30,
c'est plutôt 4h30,
bah donc 10h plus 2h, parce qu'on va considérer qu'un cycle, c'est entre 90 minutes et 120 minutes. Donc 10h plus 2h, ça fait minuit. Minuit, 2h. 2h, 4h. 4h, 6h. Donc là, 6h, c'est un petit peu short. Ça veut dire qu'on a au moins 3 cycles complets. Hmm. 3 cycles complets, ça me donne l'indication que si on en a plus de 2 en simultané, le nettoyage au niveau du cerveau est physiologique et psychologique.
Est réalisé.
Est
accompli.
Fait correctement son travail. Donc c'est suffisant si en plus on met en place des petits micro-sommeils qu'on évoquait tout à l'heure dans la journée. Mm-hmm. Qui
des
permettent,
petites siestes.
Alors des petites siestes. Donc après chaque petit coup de barre. C'est de fermer les yeux, c'est de pencher la tête en avant et de souffler à l'expire.
Mmh.
Ça va permettre de passer au niveau du mode cerveau, de mode bêta en mode alpha. C'est-à-dire
alors vas-y, répétez-nous. Donc on fait comment? On ferme
donc,
les yeux, on baisse
ferme
la
les
tête.
Yeux, on baisse la tête et on souffle à l'expire.
On souffle.
On souffle, on ferme les yeux.
Et on respire.
On penche le menton.
Donc c'est-à-dire c'est des respirations longues, des inspirations et des respirations longues.
Alors ce sont des inspirations normales et des respirations normales. Mais c'est le fait de fermer les yeux, qu'on dit au cerveau qu'on passe en mode jour sans qu'il fasse nuit dehors, parce qu'on a fermé les yeux. De pencher la tête en avant, on donne l'indication au cerveau qu'on se met en mode repos, parce que normalement la nuit, on penche la tête en arrière parce qu'on s'allonge. Mais on ne veut pas dire au cerveau qu'on veut s'allonger et dormir, parce que ce n'est pas la nuit. Mais on veut juste s'allonger pour récupérer, donc on penche la tête en avant. Et le fait de souffler, ça fait au niveau du prana et au niveau du diaphragme, et aussi... de la respiration profonde, cette capacité à régénérer. C'est comme quand on baille. Quand on baille le soir, c'est pour dire qu'on veut changer de rythme. Quand on baille le matin, ça veut dire qu'on veut se réveiller. Donc le fait de faire ces inspirations normales et ces expirations en soufflant et en penchant la tête vers l'avant, ça va permettre de pouvoir récupérer presque 20 minutes à chaque fois qu'on le fait sur l'espace de 4 heures. Donc on peut récupérer sur 8 heures dans la journée 40 minutes de sommeil qu'on n'a pas fait la nuit si on veut le réserver à la prière.
Super.
Ça c'est la journée parce que
en plus elle l'a dit avec une facilité de compréhension, je suis vraiment moi stupéfait là par la qualité
c'est
des
explications. C'est pas la tête en arrière hein.
Franchement là je suis sûr que
c'est pas la tête en arrière.
C'est un service public elle vient de dire.
La tête en avant
elle dit, la tête en avant,
j'ai bien compris. Quand on dort dans la journée, c'est la tête en avant, c'est
ça que je comprends.
Alors que quand on est dans son fauteuil ou quand on est au bureau, on pourrait avoir tendance à mettre la tête en arrière.
Mais quand on voit nos anciens qui faisaient des fois la sieste entre midi et deux, ils posaient toujours la tête sur leurs avant-bras en avant. Ils s'allongeaient rarement en arrière.
D'accord, très bien.
La sieste de 20 minutes, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors la sieste, alors là, quand c'est le ramadan, forcément, il n'y a pas de repas le midi. Mais si, même après le repas du soir... quand on a fini et qu'on a raté éventuellement l'heure pour aller se coucher parce qu'il n'y a pas cette sécrétion de mélatonine, on peut se faire cette sieste du soir qu'on n'a pas pu faire le midi, qui va permettre de digérer plus rapidement, qui va permettre aussi de donner à l'organisme la capacité de réguler plus rapidement son rythme circadien, c'est-à-dire de dire je veux changer d'heure et passer en mode nuit 2 heures suivantes, parce que ça va faciliter cette digestion, parce qu'on ne va pas faire deux choses en même temps. On va uniquement consacrer à son organisme cette faculté de digestion qui va augmenter la rapidité de digestion, parce que quand on digère, on augmente cette température corporelle d'un degré et demi, et on a besoin d'attendre que cet enclenchement soit effectué pour pouvoir redescendre de 1 degré et demi pour sécréter cette mélatonine.
D'accord. Les gens en général terminent cette matinée de la collation du matin très tôt, aux alentours de 6 heures du matin. le jeune débute, mais c'est pas encore l'heure d'aller au travail ou d'aller à l'école, etc. Est-ce qu'ils peuvent se rallonger et dormir jusqu'à 7h30, par exemple, pendant une heure et demie?
Non, à partir du moment où il fait jour, le mieux, c'est ce qui est le plus récupérateur, c'est de faire cette sieste Salvador Dali qui peut aller entre 10 et 25 minutes. D'accord. Et l'objectif, c'est de
pencher. C'est pas une bonne idée de se recoucher, hein.
Non, c'est pas une bonne idée de se recoucher, parce que d'autant plus que quand il fait jour dehors, on donne l'indication à son cerveau qu'on passe en mode nuit. Donc si on se met en position couchée, on va donner une mauvaise information et c'est ça qui dérègle le rythme circadien.
Non, surtout qu'on peut redémarrer un cycle.
Oui, tout à fait,
c'est ça. C'est pour ça que les gens sont très fatigués le matin, parce qu'ils se sont recouchés après le sahour, et ils ont redormi une heure et demie, voilà.
Donc, il faut pas.
Bah, en tout cas, ça peut fatiguer.
Physiologiquement, après le repas du soir, normalement, on est censé dormir parce qu'il fait nuit dehors. Donc, le cerveau va assimiler différemment qu'on passe en mode nuit. Si on mange tôt dans la matinée, parce que forcément, on peut finir ce dernier repas à 5h le matin avant qu'il fasse jour, et que derrière, on lui donne l'indication, je vais grappiller encore un petit peu de sommeil parce que justement, c'est pas possible, ça va pas le faire.
Bien. Top départ. Donc là, vous pouvez appeler le standard si vous voulez être l'auditeur VIP 01 53 48 3000.
Oui, je voulais parler de Au Barbuck. Salam alaikum Ahmed. Tu mets un peu de son pour Ahmed. Voilà, il est là, c'est bon, tu peux y aller.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Ahmed.
Bonsoir. J'arrive sur le fil comme d'habitude.
Alors Au Barbuck, c'est quoi Au Barbuck?
C'est un restaurant qui est situé sur Clichy, à la porte de Clichy, spécialisé dans le poulet, désossé, et tout est cuit au barbecue, donc c'est extrêmement sain.
C'est pour ça que ça s'appelle Au Barbuck.
Exactement, voilà.
Et alors, il y a quoi d'autre comme spécialité? Des burgers?
On fait des burgers, on fait des bowls. Donc, tous les plats sont réalisés avec un chef gastronomique qui a fait Top Chef.
Ah oui, qui a fait Top Chef. Exactement. En plus. D'accord.
Et on est situé au 14 boulevard Victor Hugo.
Boulevard Victor Hugo à Clichy-la-Garenne.
Tout à fait. Et il y en a 5 qui vont ouvrir courant 2024.
Au Barbuck, donc on retient.
Dont un qui est très proche de vous à Ivry, voilà. Le prochain Ivry, il y en a un
à Ivry 60. Sur Seine, là, juste à côté. Ah, oh, bah super, comme ça on sera.
C'est le mois prochain, Ivry.
Juste à côté. Ouais. Eh bah génial.
Voilà. Et le prochain sera dans le 60 à Compiègne. On a Angers qui arrive. Et on a mon petit bébé, Marrakech.
Ah ouais, donc c'est véritable.
Une petite chaîne.
C'est une petite chaîne. Super. Voilà. Bravo.
Et aujourd'hui, je vous
ai ramené. Il nous régale ce soir.
C'est moi qui vous régale aujourd'hui et je vous ai ramené un dessert de la.
Allah yakhlif alayk wa yibarak fik.
Du Moulin de Taverny, une superbe boulangerie. J'espère que vous allez aimer.
Eh ben écoute, on va déguster.
Il y a des bowls, c'est quoi des bowls, Imam Abdelali?
Des bowls, c'est des petits plats qui sont revisités à base de riz principalement.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Ah, c'est des bowls.
Exactement.
Voilà.
D'accord.
C'est en forme de bowl. On appelle ça des bowls.
D'accord. Bon.
Eh ben super. Bravo. Ben écoute, merci Ahmed.
Avec grand plaisir.
Demain, on fera notre commentaire en direct.
Avec grand plaisir.
Inch'Allah, qui sera certainement positif.
Bon, il y a du monde.
Au Barbuck, au 14 boulevard Victor Hugo à Clichy.
Très bien.
Puis on a du monde ce soir, c'est ça qui est bien. C'est un samedi avec du monde.
Ben c'est bien, le samedi soir. La fièvre du samedi soir, c'est bien ça? Non, c'est pas ça?
Oui, mais c'était pas la même chose, Imam Abdelali, la fièvre du samedi soir. Je sais pas, il y a Salim qui est là qui montre des messages.
Non, il dit que je fais plus de pub que pour Salim. Ah, d'accord. Ah, il y a des jaloux, toujours des jaloux. Alors, Salim, c'est celui du restaurant El Maïda à Rissorangis, qui est aussi un restaurant très très bon, effectivement.
Vous finirez au téléachat, Imam.
Voilà. Non, mais c'est
moi, on finira au téléachat.
Belmar, il a commencé par raconter des histoires. En plus,
sur Ikra TV, on finira au téléachat, vous verrez.
Par vendre des histoires.
Bien, alors 01 53 48 3000, je rappelle que c'est peut-être vous qui dans un instant serez l'auditeur VIP 01 53 48 3000. Alors on va demander à qui c'est qui va tirer au sort ce soir.
Ahmed ou bien Christine. Christine, tiens, on l'a pas entendu.
Christiane.
Une femme.
Alors, Christiane, c'est vous qui avez la lourde tâche de tirer un auditeur au sort, donc il faut donner un numéro entre 1 et 6.
Voilà, tout.
Christiane,
celui-là, votre micro.
Alors, entre 1 et 6, je vais choisir 4.
Le 4,
bien. Très bien.
Alors, qui est l'auditeur numéro 4? Bonsoir, bienvenue et bon ramadan.
Bonsoir.
Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous?
Alors, je m'appelle Tiziri.
Comment? On n'a pas entendu.
Je m'appelle Tiziri.
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 Tiziri. Tiziri. Tiziri. C'est Kabyle, ça?
Exactement.
Ah, c'est pour ça. On n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de mots. Tiziri. Ah, mashallah. Charfine. Merci. Marhaba Bikorti. Et Tiziri, vous êtes où?
Alors, j'habite à Montreuil.
Alors, j'ai pas entendu. Montreuil?
À Montreuil. Montreuil,
Montreuil ouais, Montreuil, d'accord.
Ah, Tiziri de Montreuil, c'était facile, ouais, ça.
Tiziri de Montreuil, c'est facile, c'est vrai.
Ouais.
Et vous mangez quoi ce soir et avec qui?
Alors, ce soir, je suis avec ma famille. On a préparé des briques, la charba, du felfel. Des briques aux crevettes, voilà, la salade.
Les briques aux crevettes, ça va être bon ça.
Oui, avec.
Tiens, je vais en faire une soirée, tiens, Inch'Allah.
Et alors, qui c'est qu'il y a dans votre famille, Tiziri, avec vous ce soir?
Alors, ce soir, je suis avec ma mère Naïma, mon père Nasser et mon petit frère Arilès.
Arilès, bah oui, Arilès, qu'on disait tout à l'heure que j'aime bien ce prénom. Ce qui veut dire le lion, le seba, c'est ça, hein, Arilès?
Exactement.
T'as vu ça? Je connais le Kabil, moi. Ah, mon frère, moi, je suis un vrai Kabil. Un vrai barbari. Achille Hayfoulki, n'est-ce pas? Notre Ahmed marocain, il est là, marocain? Ouais, je passe un salam à tous nos éditeurs marocains, algériens, tunisiens, etc.
Alors,
et bien sûr, à tous les Français.
Alors, Tiziri, profitez de l'antenne pour passer un message à tous ceux que vous aimez.
Alors, je fais une dédicace à toute ma famille. Là, je viens de voir qu'il y a mon tonton Mouloud qui m'écoute. Donc, bonjour à toute la famille Salvi et Mokhtari. Et à tous les musulmans, une grosse pensée à eux et pour la Palestine aussi.
Ah bon? Allahumma barak. D'accord. Mais écoutez, très bien.
Alors, attends, maintenant, il faut savoir si vous êtes plutôt télévision ou aspirateur.
Alors, je vais faire un cadeau à ma maman et ça va être l'aspirateur.
Voilà. Le robot aspirateur qui a la cote, hein, cette année.
Alors là. Madame, puisque en plus vous avez une voix merveilleuse, oui. Philippe, il va vous annoncer une belle nouvelle.
Bah, c'est l'imam Abdelali qui vous amènera l'aspirateur chez vous très prochainement.
Couscous Dari vous souhaite un bon ramadan. Skso Dari, Meirta Dari. Vivez un ramadan solidaire avec Muslim Hands, 25 ans d'humanitaire à travers le monde.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يلا تيسير.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تقبل الله صيامنا وصلاتنا بمزيد من الأجر والثواب آمين والحمد لله رب العالمين
كسكس داري كتمنى لكم شهية طيبة سكسو داري ما يختداري Bon appétit avec Muslim Hands. Muslim Hands, votre partenaire humanitaire.
كل طاقم برفامي يتمنى لكم شهية طيبة. صحة فطوركم.